Presse Citron, Régine Dubois.
Bonjour, bienvenue dans Presse Citron. Aujourd'hui, voilà 10 ans que Léo Ferré s'est éteint en Toscane. On en a beaucoup parlé sur la première, on en a parlé ce matin dans l'émission de Jean-Pierre Autier et à l'instant dans Boulevard du Temps. Et c'est au tour de Presse Citron de lui rendre hommage, de rendre hommage à ce poète et auteur aux textes révoltés. Musicien curieux et audacieux, Ferré n'a jamais choisi le chemin de la facilité. Adulé par les uns et dénigré par d'autres, Léo Ferré a suivi sa voie, celle qu'il considérait comme intègre. C'est quelques coup d'œil sur la carrière de l'artiste et la vie de l'homme que nous vous proposons aujourd'hui dans Presse Citron. Quelques morceaux pour se souvenir ou découvrir. Et pour nous seconder dans cette tâche, nous accueillerons par téléphone dans quelques minutes son fils, Mathieu Ferré, responsable des éditions La Mémoire et la Mère, qui véhiculent aujourd'hui encore l'œuvre de Léo Ferré. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous écouterons les autres chanter Ferré. Et pour commencer, voilà l'un des grands succès de Léo Ferré, cet extra, un titre enregistré en 69.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris une fille qui tangue et qui se tait. Cet extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. Cet extra, cet extra, cet extra.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
On ne va pas refaire l'histoire et retracer toute la carrière de votre père, Mathieu. Ce serait un peu long et on n'a malheureusement pas suffisamment de temps. Mais on va essayer de parler de l'homme et de l'artiste, si vous êtes d'accord.
Ouais.
La première chose qu'on peut dire peut-être, c'est que la musique a habité votre père depuis sa plus tendre enfance. On raconte qu'il dirigeait des orchestres imaginaires sur les remparts de Monaco alors qu'il était encore un tout petit garçon.
C'est ce qu'il racontait lui en tout cas, c'est comme ça qu'on le sait, quoi. C'est lui qui racontait ça effectivement.
En même temps, quand il se rend compte d'une aptitude ou d'un penchant artistique particulier, il raconte aussi qu'il le cache comme une maladie honteuse.
Par rapport à la musique, parce que lui il pensait que lui il entendait cette musique-là et il dirigeait ces orchestres imaginaires comme ça sur les remparts de Monaco et il pensait que tout le monde prenait son petit déjeuner le matin, allait au bain, se lavait les dents et faisait de la musique, quoi. Et quand il s'est rendu compte que c'était pas le cas, il s'est senti différent par rapport aux autres parce qu'il avait cette musique en lui et que les autres visiblement n'avaient pas et donc il s'en est un peu caché, quoi. Il a eu un peu honte.
Il s'est senti différent.
Dans la mesure où il s'est dit je suis différent des autres. Voilà.
Alors Mathieu Ferré, la vie avance et Léo Ferré va finalement suivre une formation musicale. Ce sera une formation un peu hors des sentiers académiques.
Voilà.
Et même si aujourd'hui il est reconnu pour ses talents de compositeur et de musicien, le fait est qu'il est mis au banc et dénigré par toute une frange de la profession.
Je pense que c'est dû surtout au fait que Léo Ferré était et est toujours considéré par ses spécialistes de la musique un peu plus sérieuse, on va dire, comme quelqu'un venant du monde de la variété qui composait des chansons comme Paris Canaille, ne pouvait pas après écrire, où c'était assez mal perçu d'écrire de la musique dite symphonique, comme s'il existait deux musiques, la musique savante et la musique plus commerciale. Or, à mon avis, il n'existe qu'une musique, celle qui vous donne de l'émotion et qui vous emporte dans un pays imaginaire. Voilà, pour moi, c'est ça la musique et la poésie, quoi.
Alors, Mathieu Ferré, on va revenir un peu sur la chronologie de la carrière de Léo Ferré. Il monte à Paris pour tenter sa chance. Il était déjà monté une première fois, mais là, c'était pour les études plutôt.
Oui.
C'est en 46 et il tente sa chance. Il a déjà 30 ans. C'est pas si jeune pour démarrer.
Ben non. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable, je pense, parce qu'à 30 ans, quelqu'un, il faut qu'il ait déjà réussi, quoi. Sinon, on lui donne plus de possibilités de quoi que ce soit. Il est possible aussi que c'était une autre époque et que c'était un peu différent. Quoique la plupart des interprètes aussi, ou des chanteurs, ou des artistes à l'époque aussi, commençaient avant et à 30 ans, ils avaient déjà fait des choses, quoi.
Il va tourner de cabaret en café-concert et autres petits music-halls. C'était la grande mode à l'époque. C'était un bon moyen de se faire connaître et de débuter. Il va même plutôt galérer, hein, parce que
ben
c'est
oui.
Pas forcément évident. Et à cette époque-là, il y a des rencontres déterminantes. Vous avez évoqué Jean-Roger Cossimon.
Oui.
C'est à cette époque-là qu'il le rencontre. Une longue amitié et collaboration va suivre cette rencontre.
Oui.
Va donner naissance notamment à des chansons comme Mon Camarade, Monsieur William ou Comme à Ostende,
oui.
Entre autres. Il y a une autre rencontre importante, c'est celle avec Catherine Sauvage,
oui.
Qui sera celle qui va le faire connaître et reconnaître en tant qu'auteur-compositeur.
Oui.
Elle va interpréter au total 60 titres de Léo Ferré et elle va amener le succès d'un Paris Canaille.
Voilà, ou L'Homme aussi, avec lequel elle gagnera le Grand Prix du disque, je crois, un truc comme ça. Mais oui, en effet, elle chantait beaucoup de chansons de Léo à l'époque, et c'était une des premières qui considérait que Léo était un grand auteur de chansons et que tout lui allait à la perfection.
Et puisqu'on en parle, on va écouter cet enregistrement de Paris Canaille par Catherine Sauvage, enregistrement qui date de 1953.
Harry Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la courroie, bébert d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames sont une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold-up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, hi,
une, elle a la deux, file-moi trois, tu ne te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon, ah la la l'air, ah la la rien, t'es un gangster à la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Harry, je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, et c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est Paul Besmin, mais c'est si bon. Passe la monnaie, v'là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit faubourg, ça t'honorait, trois petits fours et je m'en vais, surprise partie, surprise restons, on est surpris, mais c'est si bon. Paris, j'ai bu, à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous des ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'environnement. C'est laborieux, mais c'est si bon. Harry Flonflon, à la manfette, et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon.
Paris Canaille par Catherine Sauvage, et je vous rappelle que si vous arrivez en cours, c'est une émission Presse-Citron spéciale consacrée à Léo Ferré aujourd'hui et en compagnie de son fils Mathieu Ferré.
Presse-Citron sur la première.
Au milieu des années 60, Mathieu Ferré, la reconnaissance en tant qu'interprète arrive peut-être de manière plus flagrante pour votre père.
Voilà, en 1961, je pense, notamment avec les concerts de l'Alhambra, ça a été là où effectivement il a eu plus une reconnaissance d'interprète.
On reprend la chronologie, Mathieu Ferré. Arrive mai 68 et les événements qu'on connaît. Un an avant, il sort un album qu'on a qualifié par la suite de prémonitoire par rapport à ces événements de 68, sur lequel on retrouve des chansons comme « Ils ont voté » ou « La Marseillaise ». Léo Ferré va être un peu considéré comme un gourou par la jeune génération. Je dis gourou, mais c'est malgré lui. Et cette période est très compliquée parce qu'en même temps, il vit un drame personnel puisqu'il se sépare de Madeleine Ferré, sa deuxième épouse, voilà. Et qu'il vit très mal aussi la mort de son chimpanzé Pépé, un animal auquel il était très attaché. C'est une double révolution dans la carrière de votre père puisqu'il s'ouvre à un nouveau public en touchant la jeunesse.
Voilà, mais en fait, si vous voulez, lui, il a toujours dit les mêmes choses. Si vous prenez des chansons de 1950, par exemple, Le bateau espagnol ou Monsieur Toublan, il y a toujours cette révolte et cette chose-là. La différence, c'est que en 1968, il y a des jeunes qui découvrent cet univers et cette révolte et cette parole dans laquelle ils se reconnaissent et ils partagent ces idées-là. Mais donc, lui, il a continué à avoir toujours un peu le même avis, sensiblement, sur la société dans laquelle on vit. C'est la mentalité des autres qui a changé en 68, je pense. Donc, c'est à ce moment-là qu'un nouveau public l'a rencontré. Et puis, il a eu un gros succès commercial aussi, qui était cet extra. Et voilà. Et donc, ça lui a donné plus d'audience qu'il n'avait auparavant.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'en se libérant de Madeleine, qui, même s'il lui a apporté beaucoup au point de vue de la scène, il a découvert une nouvelle liberté parce qu'elle a cherché quand même à gommer certaines aspérités, à peut-être lisser son œuvre.
Voilà, par exemple, une chanson comme Les Anarchistes, qui donc a été publiée, enregistrée par Léo Ferré en 69, c'était une chanson qu'il avait écrite plusieurs années auparavant. Le problème, c'est que justement, il y avait Madeleine qui disait il ne faut pas chanter cette chanson, c'est pas bon pour ton image, tu dois faire une carrière à la Maurice Chevalier. Enfin, impensable de dire ça un truc comme ça à Léo Ferré, je trouve, moi, mais bon, c'est ce qu'elle disait. Et un jour, ça n'a plus fonctionné, puis il est parti. Et donc, à ce moment-là, comme il dit dans un texte qui s'appelle Le Chien, je me suis décolliérisé, c'est-à-dire qu'il a enlevé son collier comme un chien, et il a posé son collier, et puis voilà, quoi, il est parti où il avait envie d'aller depuis toujours, quoi, où où il était d'ailleurs depuis toujours. Et voilà, donc effectivement, à cette époque, il y a une rupture peut-être dans la façon aussi d'écrire, plus de liberté dans ce qu'il faisait, probablement.
Et la voici, cette chanson dont nous parlions à l'instant, Les anarchistes, Léo Ferré.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en perne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Mathieu Ferré, on va parler un peu de poésie, parce que votre père a chanté de grands poètes, comme Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, Rimbaud.
Oui, Rudebeuf, Vian, Ronsard. Il a mis aussi en musique des textes de Vidocq, que personne ne connaît, parce que malheureusement, ils n'ont jamais été enregistrés, mais il a fait les musiques. Il a aussi travaillé un peu sur Molière. Il a aussi travaillé, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, parce qu'elles ne sont jamais sorties, quoi, mais voilà, quoi. Donc, effectivement, il a fait un gros travail sur la poésie. Et souvent, je raconte des gens qui me disent « Je ne connaîtrais pas la poésie aussi bien si Léo n'avait pas fait ce travail. » Et d'ailleurs, moi aussi, le premier, je revendique ma connaissance et ma passion pour la poésie grâce à lui, parce qu'il a fait ce travail-là. Et donc, déjà pour ça, je la remercie beaucoup.
On peut dire qu'il a amené aussi la poésie dans la rue. Je repense à l'époque mai 68.
Je ne pense pas que le public de 68 recherchait en Léo la poésie. Mais déjà dans les années 50, il racontait souvent une anecdote. Il avait sorti son chien promener et un chauffeur de camion s'arrête. Il le reconnaît dans la rue, là on était en 56 ou 7. Et dit alors Léo, quand est-ce que tu nous chanteras le pauvre bœuf à la télévision ? Et il raconte, Léo, qu'il s'est bien gardé de dire non, monsieur, ce n'est pas le pauvre bœuf, c'est pauvre Rutebeuf, qui était le poème du XIIIe siècle. Il s'est bien gardé de le dire parce qu'il considérait que c'était de toute façon une réussite, que ce chauffeur de camion n'aurait probablement jamais écouté ces paroles de Rutebeuf s'il n'avait pas fait cette musique. Et donc, un jour, il se dit, forcément, il s'intéressera peut-être un peu plus à ça et il découvrira qu'en fait, Rutebeuf est un poète du XIIIe siècle.
Il y a le côté musicien chez Léo Ferré, il y a aussi le côté poète dans son écriture. Les deux sont liés évidemment, mais est-ce qu'on peut dire, Mathieu Ferré, qu'il est plus l'un que l'autre ?
Par souci d'honnêteté, je vais dire que je le considère plus comme musicien. Parce que lui-même se considérait comme musicien, il a toujours revendiqué cette partie de son art comme plus importante, la musique, que l'écriture. Ceci dit, il est vrai que les textes ont une importance très grande parce que il a dit des choses tellement fortes et qui, moi, m'habitent au quotidien et me servent tous les jours pour pouvoir avoir espoir dans la société de demain. Et c'est vrai que forcément, il aurait écrit, même si à l'époque, au début, quand il a commencé, on lui avait donné les moyens d'être que musicien, forcément, à un moment, il aurait explosé ce verbe qui sommeillait en lui, il n'aurait pas pu le conserver. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chansons, beaucoup de textes qu'il n'aurait pas écrits. Je pense notamment aux chansons justement un peu plus comme Joli Môme ou Paris Canaille ou Le Piano du Pauvre ou des choses comme ça. À mon avis, il n'aurait pas écrit ça. Il aurait plutôt écrit des textes plus techniques et plus en prose, comme il a fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de textes que les gens ne connaissent pas, d'ailleurs, parce qu'il ne les a jamais enregistrés, parce qu'ils n'étaient pas destinés à être enregistrés. Ils étaient juste destinés comme ça. Mais c'est vrai que Léo Ferré, on l'associe toujours à, et bien sûr, à juste titre, sûrement aussi, à chanteur, à Léo Ferré égale disque. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'il a réellement écrit, quoi, comme texte plus généraliste, entre guillemets, quoi, on va dire.
On va écouter l'un des premiers poèmes mis en musique par Léo Ferré en 54, et c'est le Pont Mirabeau d'Apollinaire.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours et passe les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Mathieu Ferré, il y a une autre révolution dans la carrière de votre père en 75, un autre virage important, puisqu'il rompt avec Barclay, sa maison de disques, et devient son propre producteur. Pour Léo Ferré, être son propre producteur, ça lui enlève aussi toute limite et toute contrainte artistique. Il va pouvoir faire ce qu'il veut et il va pouvoir, notamment, on en parlait tout à l'heure, diriger des orchestres symphoniques en chantant et faire des choses comme ça.
Voilà, ben, la première fois, il a commencé à faire tourner en Suisse et puis en Belgique, donc en 75. Et puis après, ça s'est terminé au mois de novembre 75 au Palais des Congrès à Paris, où pendant 32 représentations, il n'a pas désempli la salle. Et dans ce répertoire, il jouait aussi le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel et l'ouverture de Coriolan de Beethoven. Alors vous pensez bien que les critiques spécialisées trouvaient ça tout à fait scandaleux qu'un chanteur dit de variété puisse se permettre de toucher aux grands monstres sacrés qui sont Ravel et Beethoven. Mais là aussi, les gens, ils allaient voir qui ? Ils allaient voir Léo Ferré au Palais des Congrès. Et de la même façon qu'il avait mis dans la rue les poètes, les mettant en musique, il a permis, je pense, à certaines personnes de découvrir cette musique de Ravel et de Beethoven, qui n'auraient pas connu autrement, parce que les gens, ils allaient voir après dans la loge le pianiste soliste, qui s'appelle Dagachat, qui est un grand pianiste suédois, et lui disait « Merci, bravo, monsieur Ravel !» Donc c'était des gens qui forcément ne connaissaient pas Ravel, évidemment. Morale de l'histoire, tout ça, c'est parce que Léo, il avait envie de partager avec les gens qui allaient le voir ses passions et ses amours. Si les gens ne comprenaient pas ça, notamment les critiques, et voilà, ben qu'est-ce que voulez-vous y faire ? Ben voilà, quoi, c'est dommage pour eux, en fait, pour les critiques, parce que le public ne s'était pas trompé. C'était quelqu'un qui aimait faire partager ses amours et ses passions, quoi. Voilà.
C'est sans doute ce qui rend Léo Ferré si authentique. Alors, Mathieu Ferré, vous êtes aussi responsable des éditions La Mémoire et la Mer, du nom d'un très long texte et d'une très belle chanson de Léo Ferré.
Voilà.
Vous êtes chargé de perpétuer son œuvre. Et si vous deviez donner aux auditeurs qui ne connaîtraient pas bien l'œuvre de votre père, on a dit tout à l'heure que c'était souvent les mêmes choses qu'on entendait, quel disque est-ce que vous conseilleriez pour découvrir, pour aborder ?
C'est difficile parce que, bon, il y a plusieurs périodes, donc... Un disque, je ne peux pas vous dire un disque.
Mais ça peut être aussi une compilation,
voilà,
ou quelque chose.
Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est en fait trois compilations. Il y a une compilation chez Odéon, donc, qui est aujourd'hui distribuée par Sony, dans laquelle on a une vue d'ensemble de ce qu'il a écrit dans les années 50, justement, Paris Canaille, L'Homme, Le Piano du Pauvre, etc. Après, il y a une autre compilation qui est publiée par Universal, donc par Barclay, qui vient de ressortir à ces jours-ci, et dans laquelle il y a ce qui disent être les meilleurs titres donc, de Léo Ferré de cette époque-là, donc de 60 à 74. Et puis après, une autre compilation que je viens de sortir, moi justement avec mon label, qui s'appelle Les Années Toscanes, donc, qui retrace un parcours, qui donne un aperçu de ce travail symphonique qu'il a fait à partir de 75. Un disque, c'est pas possible que je vous dise, parce que c'est trop vaste, vous comprenez, il a écrit plus de 500 chansons.
Mathieu
donc moi je conseille ces trois, donc Les Années Toscanes, donc, qui est publié chez moi, La Mémoire et la Mer, et puis cette compilation Léo chante Ferré chez Universal, et puis une compilation chez Odéon.
Très bien. Mathieu Ferré, je vous remercie beaucoup.
Voilà, mais c'est moi qui vous remercie, et puis voilà.
À très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle,
quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades dans le port. Fanfare les corps pour le retour des camarades, au parfum rare des salons, dans le poivre-feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent, une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meurent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle,
très beau texte que celui de cette chanson, La mémoire et la mer, un texte que je vous conseille de réécouter, voire même de lire, parce que c'est très très dense et bourré d'images. Cette chanson a été puisée dans un très long texte écrit par Léo Ferré, un texte qu'il a écrit sur l'île du Guesclin, un îlot du côté de Saint-Malo, îlot qu'il achète et sur lequel il s'établit en 59 et qui lui inspira donc ces mots de La mémoire et la mer. Aux éditions du même nom, gérées par Mathieu Ferré, on peut trouver un double album intitulé Léo Ferré sur sur la scène. Il s'agit d'enregistrements datant de 72-73. À l'époque, Léo Ferré se produit seul en scène, accompagné du pianiste Paul Castagnier, qui sera son fidèle compagnon de scène de 57 à 73. Une longue complicité dont voici un témoignage sonore avec une chanson intitulée Richard, chanson qui évoque un autre de ses proches collaborateurs, Richard Marsan, qui fut son principal directeur artistique. Voici donc Richard, c'est un enregistrement par la radio suisse romande à Lausanne en 73 et réédité par La Mémoire et la Mer.
Les gens, vous conviendrez de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement, des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre et on regarde loin derrière la glace du comptoir et on se dit qu'il est bien tard, qu'il est bien tard.
Nous avons eu nos nuits comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, ça va? Si les copains cassaient leur âme à temps pressé le citron de la nuit dans les brumes pernos, si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait. Richard, ça va? À cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. Richard, ça va? Nous avons eu nos nuits comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, hey, les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous avec des problèmes d'hommes. Simplement, des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre et on regarde loin, derrière la glace du comptoir, et on se dit qu'il est bien tard, qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route. Richard, encore un petit, vite fait. Monsieur Richard, le dernier, pour la route.
Richard par Léo Ferré, accompagné de Paul Castagnier, en public en 1973. Voilà 10 ans que Léo Ferré nous a quittés, et même si finalement on entend peu Léo Ferré en radio, la ferveur de l'admiration ne faiblit pas. Ceux qui citent Ferré comme référence sont légion, et ils sont nombreux aussi à perpétuer ses chansons à travers des reprises et des hommages. Nous allons consacrer la deuxième partie de ce spécial Ferré à ceux-là, justement, ceux qui lui ont rendu hommage. Et pour commencer, on va écouter Philippe Léotard, qui en 94 consacre un album complet aux chansons de Ferré. Cet album s'appelle Philippe Léotard chante Ferré, et voici Monsieur William. Les mots sont de Jean-Roger Coussimon et la musique de Léo Ferré.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William, toujours exact et toujours plein de zèle. Monsieur William, il arriva jusqu'à la quarantaine, sans froideur. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si beau, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'emmena à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, mort de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'était irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone. Chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Oh, Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue.
Léotard, aujourd'hui disparu lui aussi dans sa propre version de Monsieur William. En 1970, c'est une autre grande dame de la chanson française qui interprète une très belle chanson de Léo Ferré. C'est La vie d'artiste, et cette grande dame, c'est Barbara.
On s'est rencontrés par hasard ici ailleurs, autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi rêver, de quoi chanter, tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Soirée sans cinéma et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Un jour on ne sait trop pourquoi, un étrange maladroit lisant mon nom sur une affiche te parlera de mes succès, un peu triste, toi qui sais, et lui dira que je m'en fiche.
Barbara dans La vie d'artiste, une chanson dont la version première, celle de Léo Ferré, donc date de 1950. Si nombre de contemporains de Léo Ferré se sont penchés sur son œuvre et ont choisi de reprendre l'une ou l'autre de ses chansons, les artistes d'aujourd'hui ne sont pas en reste. Il est clair que la chanson la plus reprise de Ferré est bien entendu Avec le temps, mais il y en a d'autres, et pour preuve, cet album hommage qui vient de paraître sous le titre Avec Léo. 13 artistes d'obédience plutôt rock s'y retrouvent. Il y a Dominique A, Zebda, Dionysos, Les Hurleurs, Bernard Lavillier, et puis le groupe français Noir Désir, qui a décliné Des armes à sa façon. Des armes de Léo Ferré par le groupe Noir Désir. On reste sur l'album hommage avec Léo pour écouter Joli Môme, l'un des grands succès populaires du début de carrière de Léo Ferré. Et la version qui nous est proposée ici est celle de Jacques Higelin.
Sous ton pouls, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en bon aux amis, joli môme. Qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps, et qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. Dès qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, dès qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits sons sont du jour à la coque à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fausse la ferme, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. Qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps, dès qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. Dès avec un point sur les i, le chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie, on arrose, qu'on oublie. Joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime, que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse le bon Dieu, joli môme.
Joli môme par Jacques Higelin sur l'album Hommage avec Léo. On arrive bientôt au terme de cette émission spéciale autour de Léo Ferré. Il me reste à remercier ceux qui y ont participé, Mathieu Ferré, le fils de Léo, et aussi Gérard Wesenstein pour ses précieux conseils et sa grande connaissance de l'œuvre de Léo Ferré. Merci aussi à Francis Willems qui assurait la mise en onde de l'émission. Quelques conseils de lecture également si vous souhaitez en savoir plus sur Léo Ferré, avec une très belle biographie signée Robert Belleret et parue aux éditions Actes Sud. Elle s'appelle Léo Ferré, une vie d'artiste. Et puis le roman Benoît Misère, écrit par Ferré lui-même, un roman aux inspirations autobiographiques réédité par La Mémoire et la Mer. Un site internet également pour en savoir plus, c'est le www.leoferré.com. Et on va bien sûr terminer par ce qui est sans doute le plus grand succès de Léo Ferré, Avec le temps, une chanson qui se passe de commentaires. Et pour l'anecdote, lors de sa dernière tournée, Léo Ferré clôturait son spectacle par cette chanson et demandait au public de ne pas applaudir à la fin. Voici donc les mots d'Avec le temps, sans autre commentaire. Bonne fin d'après-midi sur la première et à demain.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Disait tout bas, les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.